Bonjour et bienvenue dans Du vent sous la robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier, consultante en innovation et développement d'activités pour les cabinets d'avocats et les directions juridiques. Et dans cet épisode hors série, je vous propose de vous immerger dans l'expérience de la première édition française du Global Legal Hackathon que nous avons organisé avec Geoffrey Delcroix et Nathalie Aznar-Macias d'Ubisoft, Soumis Saint-Auguste d'Open Law et Lefebvre Saru, et Marie Duo d'Entre Confrères, dans les locaux d'Ubisoft à Paris, enfin à Saint-Mandé, du 25 au 27 mars 2022. Mais alors, qu'est-ce que c'est le Global Legal Hackathon? C'est un événement au cours duquel des participants de tous horizons et de tous profils se réunissent pendant 2 jours et demi pour travailler en équipe sur des projets innovants en rapport avec le droit et pitcher leurs projets devant un jury à l'issue du week-end. La petite spécificité, c'est que cet événement a lieu au même moment dans plein d'autres endroits du monde. Mais alors comment nous est venue l'idée d'organiser cet événement? Tout a commencé il y a un peu plus de 2 ans, juste avant le Covid, lors du Global Legal Hackathon de Londres auquel j'ai participé parce que justement, il n'y avait rien en France. J'ai adoré cette expérience et grâce à la magie des rencontres, je me suis offusquée du fait qu'il n'y avait rien organisé en France et j'ai été mise en contact avec Kira Markovic, qui est la responsable monde du Global Legal Hackathon, qui d'ailleurs a fait un travail juste incroyable, et c'est de là qu'est partie la folle idée d'en organiser un à Paris. Bon, il y a eu le Covid entre-temps, donc il a fallu être un peu patiente, mais évidemment, il n'était pas question d'organiser ça toute seule. Je connaissais déjà Geoffrey pour avoir eu le plaisir de l'interviewer dans mon podcast sur l'innovation dans les directions juridiques. Et donc, quand je l'ai croisé au rendez-vous des transformations du droit à Paris en novembre, c'est tout naturellement que je lui ai demandé s'il accepterait d'organiser l'événement avec moi et de l'héberger dans leurs incroyables locaux. J'ai vraiment adoré la spontanéité avec laquelle il a répondu oui sans aucune hésitation. Et voilà, c'était parti. Et puis Nathalie, Soumi et Marie nous ont rejoints ensuite. Ça a été juste un immense plaisir d'organiser cet événement avec eux, parce qu'on a tous en commun cette passion pour l'innovation dans le domaine du droit, et puis on a beaucoup ri pendant le week-end, dédicace toute particulière à Soumi et à son idée géniale de créer un DataViz. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fameux jeu de la pelote de laine dont vous entendrez parler dans l'épisode, et puis un big up au somptueux lapin sac à main qui nous a tant fait rire. Non, je vous rassure, on aime les animaux et on ne leur a pas fait de mal, promis. Bref. Assez parlé, le Global Legal Hackathon à Paris, c'était quoi? 121 personnes présentes sur place, une dizaine à distance, des professionnels du droit, des étudiants, des élèves avocats, des développeurs, des designers, des profils business et plein d'autres encore. 16 équipes concourant pour gagner leur place pour la demi-finale où ils affronteront les équipes du monde entier. Mais aussi une équipe de mentors incroyables, aux compétences variées, des ateliers et des ressources mises à disposition des participants pour les aider dans le développement de leur projet. Et puis bien sûr, un jury au top, dont j'ai eu la chance de faire partie, pour départager les équipes candidates. Honnêtement, le choix a vraiment été difficile, parce qu'il y avait vraiment de beaux projets, de très belles idées et surtout des équipes surmotivées qui ont tout donné. Bref, pour une première édition parisienne, on ne pouvait vraiment pas rêver mieux, c'était un week-end inoubliable. Alors, comme j'avais à cœur de partager ça avec vous, au cours du week-end, j'ai interviewé 11 équipes sur les 16 candidates, je n'ai malheureusement pas eu le temps d'interviewer tout le monde, et les projets n'étaient pas encore tous finalisés au moment des interviews, mais je voulais vraiment vous donner un aperçu des projets développés au cours du week-end, et de leur diversité, mais aussi de l'ambiance qui régnait au sein du Global Legal Hackathon à Paris, et vous montrer ce que ce genre d'expérience peut vous apporter. Vous allez voir, c'est top. Et puis qui sait, ça vous donnera peut-être envie de participer l'année prochaine. Si vous avez envie d'en savoir plus sur un projet, si vous souhaitez aider les équipes ou les mettre en relation avec d'autres personnes susceptibles de le faire, n'hésitez pas à les contacter. Je mets en note de l'épisode la liste des projets et des personnes à contacter. J'espère que cet épisode vous plaira et si vous souhaitez savoir qui a gagné, eh ben vous le découvrirez au cours de l'épisode. Bonne écoute! Ma première victime est Thibaut Houdot. Alors Thibaut, est-ce que tu peux te présenter très brièvement?
Alors bonjour Laetitia, merci beaucoup de m'accueillir pour ce petit interview dans le cadre de ce Global Legal Hackathon. Je m'appelle Thibaut Houdot, je suis juriste de formation. Ça fait 2 ans que j'entreprends dans le domaine du droit et j'ai cofondé un organisme de formation qui s'appelle SideQuest et qui propose de la formation professionnelle continue aux professionnels du droit, en majorité les avocats, mais on s'adresse aussi aux juristes, aux huissiers. Et du coup, on essaye de les aider à diversifier leurs compétences, de les aider à faire progresser leur activité avec de la formation, avec des contenus qui sont dynamiques, engageants et surtout qui débouchent sur des véritables compétences.
Vous innovez dans le domaine de la formation.
On essaye.
Et alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de participer au Global Legal Hackathon ?
Alors déjà, parce que tu m'as invité et que je ne peux rien te refuser. Non, en plus, à la base, éventuellement, je vais venir pour coacher un petit peu, être présent. Et c'est Charlotte Ponce, avec qui je participe à cet événement, qui m'a dit « Oh, est-ce que tu vas participer en tant que candidat ?» Et en fait, après réflexion, c'est quand même des événements qui sont extrêmement intéressants, qui mettent en place des méthodes que j'essaye d'appliquer au quotidien. Donc je me suis dit « Je pense que je préférerais le faire en tant que candidat pour ressentir un petit peu l'effervescence de l'événement et le côté assez gratifiant d'arriver avec pas grand-chose et de repartir avec un projet bien dessiné. C'est des bonnes habitudes à prendre pour tout projet entrepreneurial. Donc
ouais, c'est clair. Puis c'est vraiment une expérience assez unique, je trouve.
Oui, alors là, je suis d'accord, surtout que c'est très bien organisé et qu'on est très très bien reçu dans les locaux d'Ubisoft. Donc très unique.
Et alors, sur quel projet, toi et ton équipe, vous avez choisi de travailler ?
Alors, moi et mon équipe, ce qui est intéressant, c'est que à nous tous, on a des compétences qui sont assez variées. Ça va de personnes qui ont déjà travaillé sur de la vidéo, plusieurs personnes qui ont déjà entrepris, plusieurs personnes qui ont déjà exercé comme juriste dans le public ou dans le privé, des personnes qui sont assez spécialisées en legal design, en UX design, en programmation un petit peu. Donc ce qui fait qu'on a un éventail de compétences qui est assez large.
Hyper complémentaire.
Ouais, et que de personnes quand même qui ont l'habitude aussi du monde du droit. Et entre nous, également du fait de nos expériences personnelles, soit en tant que recruteur, soit en tant que candidat, on s'est rendu compte que dans le domaine du droit, et en particulier dans le domaine de la legal tech sur lequel on a choisi de se focaliser ce week-end, il y avait des grosses, grosses problématiques de recrutement. C'est compliqué déjà pour des personnes qui en fait sont dans des petites structures où on n'a pas de RH et quand on est en croissance, quand on commence à embaucher des gens, on va embaucher des gens sur des compétences que nous, on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas. Donc déjà, de base, c'est compliqué juste de créer une fiche de poste, de vraiment réussir à mettre des mots sur son besoin. Et au-delà de ça, voilà, on a tous été confrontés à ça, le monde du droit, à ses codes, ce qui fait que c'est compliqué de réussir à trouver voilà ces profils qui sont, en même temps, on pense qu'on veut qu'ils soient juristes, des fois on a besoin qu'ils soient juristes, mais il faut qu'ils comprennent la technologie, il faut qu'ils soient bons en commercial, il faut qu'ils soient bons en relationnel. Et en fait, soit on cherche mal parce qu'on veut chercher un petit peu tout en même temps et on se perd, soit on n'arrive pas à trouver justement cette perle rare et qui a pas forcément les compétences qu'on imaginait à la base parce qu'on n'était pas forcément les mieux placés pour exprimer son besoin. Parce que tout ça, c'est aussi un métier et c'est aussi des techniques. Donc, assez modestement, on essaye d'apporter une solution qui pourrait simplifier ces problématiques de qualification du besoin et de recrutement de qualité dans le monde de la legal tech.
Quelle forme, du coup, prendrait ce projet ? Ça marcherait comment ?
Alors, à ce stade, bon, il y a encore quelques petites choses à finaliser. Il nous reste encore 24 heures. On va essayer d'aller au bout. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va se présenter comme un site internet ou comme une application où il y aura vraiment une partie, si je puis dire, de curation en amont. On va vraiment accompagner les recruteurs pour mieux exprimer leurs besoins, pour que ce soit pas simplement de la mission, mais que ça se traduise dans des compétences, dans des profils. Et de même, chez le candidat, on va l'aider à se créer son profil candidat qui soit pas seulement sur des compétences purement juridiques, mais sur beaucoup d'autres choses. Et ce site internet permettra ensuite de faire du matchmaking, de la mise en relation. Mais voilà, ce sera vraiment comme un service qui, d'une part, sera pour les candidats, d'autre part, pour les utilisateurs. Mais ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressant que tout ce qu'on a déjà tous fait, de mettre ses CV dans des CV tech, des trucs imbitables où on n'arrive pas à trouver les bonnes offres, on sait pas si
ouais,
c'est...
C'est clair.
Voilà, donc ça, c'est l'enfer. Et on l'a tous vu de, un peu des deux côtés du miroir, ça fait jamais rêver. Là, on pense avoir trouvé quelque chose qui pourrait être intéressant.
Ok, ben, trop hâte d'être à demain pour les pitchs. Et alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu l'ambiance au sein du Global Legal Hackathon et quels ont été un peu les temps forts pour vous ?
Alors, l'ambiance est excellente. On discute, on rigole, on partage nos expériences. On a plein de profils différents, mais tous complémentaires. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment sympa. En plus, les locaux d'Ubisoft...
sont fous.
Voilà, les locaux sont incroyables. Je me suis retrouvé hier sur un simulateur en réalité augmentée en train de faire du grand 8 avec des lapins crétins. C'est quand même pas tous les jours que
c'est clair.
Que je peux faire ça. Là, on s'interview dans une salle de sieste.
Et il y a eu un autre casque de réalité virtuelle où on peut visiter Notre-Dame et tout.
Eh ben, j'ai même pas encore essayé ça. Donc voilà, le lieu et les personnes font que ça rend ça très sympathique.
Et puis ça pousse à la créativité aussi, je
trouve. Exactement. Et ce que j'allais dire, c'est que la méthode est là. C'est super bien organisé. On sait que ça se passe un petit peu dans le monde entier en même temps. On nous donne beaucoup de ressources, il y a des coachs qui passent, il y a des mentors qui nous aident. On arrive toujours à trouver un professionnel qui parfois est une autre personne qui bosse sur un projet, mais on sait qu'elle est professionnelle sur un aspect ou l'autre et les gens sont beaucoup dans l'échange, essaient de s'aider. C'est une ambiance très bon enfant, mais ça bosse quand même assez dur, fort parce que ouais, on veut tous présenter quelque chose de sympa. Si je devais définir les temps forts, bah, déjà voilà, me lever à 7h du matin un samedi pour aller bosser gratuitement sur un projet qui verra peut-être jamais le jour, ça suffit à montrer à quel point l'expérience est sympathique. Et en vrai, toute cette journée de travail, elle est passée super vite, c'était vraiment très agréable. Donc de manière générale, je trouve que c'est un chouette week-end.
Et est-ce que t'as fait le petit jeu avec les pelotes de laine?
Ouais.
Et alors, tu es plutôt lapin quoi, toi?
Alors, je suis lapin coquin qui vient pour ambiancer et qui souhaite repartir avec des souvenirs inoubliables.
Nice.
Voilà, pour l'instant, ça se passe plutôt bien.
Et alors, qu'est-ce que t'as appris, t'as apporté cette expérience? C'est pas fini encore, mais jusqu'à
maintenant. Non, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on utilise plein d'outils qui sont très classique dans la création de projets, dans l'idéation, dans le fait de monter une offre de service. Et c'est quand même des outils et des méthodes que moi, j'enseigne de temps en temps, que je conseille à plein de personnes au quotidien, que je vois appliquer. Mais finalement, c'est plus si souvent que ça que moi, vraiment, je
ouais,
mets les mains dedans,
ouais.
Je pratique, je suis sur un cas, je réfléchis. En fait, c'est super agréable de se remettre vraiment sur un projet et de se servir de ces outils. Et ça va forcément, moi aussi, nourrir mon expérience pour mieux en parler
les
prochaines fois quoi.
Derrière peut-être t'auras des idées d'amélioration ou de changement et tout, donc
exactement ouais,
trop bien. Et ben écoute, un grand merci Thibaut,
merci.
Et puis que le meilleur gagne.
Merci beaucoup Laetitia. Merci à tous,
à bientôt. Pour cette deuxième interview, j'accueille Lucille Quintel. Bonjour Lucille, est-ce que tu peux te présenter brièvement?
Bonjour Laetitia, donc je m'appelle Lucille Quintel, je travaille au sein de la direction juridique d'Ubisoft depuis plus d'un an et demi maintenant. Auparavant j'étais avocate en propriété intellectuelle et droit des nouvelles technologies.
Et alors pourquoi t'as eu envie de participer au Global Legal Hackathon?
Alors je n'avais jamais participé à un hackathon auparavant, je travaille dans une boîte de tech, j'ai toujours été intriguée par l'ambiance au sein des hackathons et j'ai trouvé que les thèmes de cette année étaient intéressants.
Ok, trop bien. Et alors, sur quel projet vous avez choisi de travailler avec ton équipe?
Alors, avec mon équipe, qui est quasiment intégralement constituée de membres d'Ubisoft, de la direction juridique d'Ubisoft et du département innovation, nous avons décidé de travailler sur le sujet de l'Ukraine et de la crise des réfugiés ukrainiens. On a décidé de travailler sur la conception d'une application qui permettrait aux personnes devant quitter leur domicile très rapidement dans un contexte difficile de pouvoir s'identifier, alors à la fois avec un système de coffre-fort de leurs documents d'identification pour pouvoir ensuite passer les frontières. Et on a également envisagé des versions ultérieures qui incorporeraient davantage de fonctionnalités de type mise en relation avec des associations, avec des autorités, etc.
Et du coup, tout serait mis sur une plateforme et ça serait automatiquement transmis. Comment ça marcherait?
Ça fonctionne notamment avec la blockchain pour qu'en fait, ils puissent à la fois numériser leurs documents d'identité quand ils les possèdent, quand ils ne les possèdent pas, qu'il y ait un système qui leur permette quand même de reconstituer une sorte d'identité numérique et qu'ils puissent quand même passer les frontières et qu'éventuellement les douanes puissent faire la comparaison entre les données qui figurent sur leur application. On intitule le projet Ideal, Ideal,
okay.
Voilà, pour que sur leur application Ideal, il y ait des informations concernant leur identité, qu'ils puissent les fournir aux autorités qui leur demanderaient de s'identifier et qu'éventuellement les autorités puissent faire la comparaison avec leur listing, etc. pour recouper les informations. Et on a également envisagé le cas de familles ou avec des enfants ou des grands-parents, des personnes qui n'auraient pas d'appétence particulière avec le numérique, pour avoir une sorte de livret de famille, avoir tous les membres de sa famille qui soient liés via cette application dans la perspective de sujets de type regroupement familial ou de pouvoir, si l'un des membres de la famille a pris un autre chemin, a traversé une autre frontière ou la frontière à un autre endroit, de pouvoir se retrouver, de les géolocaliser, voilà.
Ok, bah super intéressant et effectivement, malheureusement, très d'actualité, quoi.
Oui, malheureusement.
Donc, tu as dit qu'il y avait différents profils, donc c'est une team Ubisoft, mais quelles sont un peu les différentes compétences que vous avez au sein de votre équipe?
Alors, on a beaucoup de juristes, mais on a également, comme on a un département innovation qui a intégré la direction juridique, ce qui est top, on a un développeur et une legal designer qui nous a fait le mock-up de l'application.
Trop bien.
C'était super
et
chouette.
Et alors, ça fait quoi de travailler tous ensemble avec des compétences complémentaires?
C'est top, c'était l'occasion déjà de se retrouver parce que, en fait, in fine, je travaille pas vraiment en lien étroit avec ces personnes-là au sein de la direction juridique. On est un peu divisé par pôle et puis on a chacun nos clients internes, etc., nos partenaires. Donc là, c'est hyper chouette en fait de se retrouver et de travailler avec des gens que je côtoie au quotidien, mais avec lesquels j'ai pas forcément l'habitude de travailler.
Donc c'est une bonne expérience.
Excellente, ouais.
Et est-ce que tu peux décrire un peu l'ambiance au sein du Global Legal Hackathon?
Bah, hyper décontractée, festive, conviviale. ça reste une compétition, mais on ressent pas trop le... Enfin, en tout cas, personnellement, je ne ressens pas la pression. Enfin,
c'est
voilà,
juste le côté positif de...
Ouais,
de
tout à fait. Les gens sont là. Alors, on sent qu'il y a des équipes qui sont un peu là pour gagner, etc. Mais je trouve que l'ambiance, elle est conviviale.
Et quels ont été les temps forts pour vous ?
Les temps forts, bah là peut-être le fait d'avoir fini un peu le mock-up de l'application. En fait, c'est super chouette, je trouve qu'on est allé assez vite parce que in fine, hier soir, on n'a pas pitché notre sujet parce que on n'était pas encore certain du sujet qu'on allait traiter. Et puis je trouve qu'on a eu plein d'idées qui ont surgi et qui sont concrétisées, donc je trouve que ça a du sens.
Oui, bah c'est sympa d'avoir la réalisation concrète, enfin matérielle, de tout ce travail et de vos idées aussi, quoi. Et qu'est-ce que tu as appris de cette expérience ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ?
Bah, c'est un peu de la gestion de projet, donc déjà c'est un type de compétence qui il est toujours bien de savoir développer, mais surtout ça m'a appris à travailler en équipe, voilà, on s'écoute, on se répartit les tâches, enfin c'est un peu un petit microcosme qui s'organise pendant 2 jours. Donc je dirais organisation, et puis il y a des outils que j'avais jamais utilisés, enfin bon, c'est pas vraiment moi qui l'ai utilisé, mais Figma, enfin des logiciels que j'avais jamais utilisés auparavant, donc
plein de découvertes.
Exactement, sympa. Des découvertes tech très sympa.
Bon bah écoute, merci beaucoup.
Merci à toi Laetitia.
Et puis à bientôt.
À bientôt.
Pour cette nouvelle interview, j'accueille Félix Bette. Félix, est-ce que tu peux te présenter rapidement ?
Yes. Ah bah du coup, Félix, ingénieur de formation, ingénieur généraliste, et ça fait quelques années que j'exerce le métier de data scientist. Du coup, moi je suis un passionné des enjeux énergie-climat, et après, voilà, dans la vie de tous les jours, un peu geek, un peu open source, un peu tout quoi.
Très bien. Et alors, pourquoi t'as choisi de participer au Global Legal Hackathon ?
Alors, en gros, on m'a pas imposé, mais non, je plaisante.
C'était pas loin.
C'était pas loin. C'est du coup, il y a des quelques potes en fait qui en ont parlé. Et, du coup, on s'est dit bah, pourquoi pas. Au début, j'étais en mode, ouais, je vais passer tout un week-end à essayer de travailler sur un sujet. Et puis finalement, je me suis dit, allez, je vais venir. Finalement, c'est super cool. Et donc, je suis très content d'être là.
Donc, t'es content finalement.
Ouais, finalement, super content. Franchement, ouais. En plus, on pensait qu'on devrait. Enfin, je m'imaginais devoir, je sais pas, coder toute la nuit ou voilà, passer des heures entières. Mais finalement, en fait, on arrive un petit peu à cadrer notre temps. On a une bonne dynamique d'équipe. Donc, finalement, c'est juste.
Un plaisir, finalement. Ouais. Et alors, sur quel projet vous avez choisi de travailler avec ton équipe ?
Alors, du coup, avec mon équipe, on essaye de faciliter le dépôt de plainte relatif aux allégations, on va dire, de greenwashing. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'en fait, dans pas mal de contextes, en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de pubs, en fait, qui laissent transparaître que toutes les entreprises sont transformées, qu'elles sont durables, qu'elles sont green, qu'elles sont toutes neutres en carbone, etc. Donc, en fait, finalement, la lutte contre le changement climatique, on a l'impression que ça se résout juste à dire qu'en fait, on l'a fait. Alors que dans les faits, c'est pas forcément le cas. Et donc, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que dans beaucoup de situations, on se dit, tiens, en fait, bah, je vois une pub, elle me dérange un petit peu, puis je saurais pas forcément, c'est assez dur, en fait, de caractériser ce qui va pas trop dans une pub. Donc, du coup, le citoyen, il a besoin d'être accompagné un petit peu pour pouvoir, en fait, se dire, je veux la qualifier, je veux déposer une plainte. Et même le fait de savoir que je peux déposer une plainte, c'est pas quelque chose qu'on sait tous naturellement. Moi, j'avoue que j'en avais entendu parler, mais je savais même pas quelle procédure ça devait faire. Est-ce que c'était une, moi, je pouvais le faire en tant que citoyen, ou bien il faut que ce soit une personne morale, il faut qu'il y ait une entité, est-ce que c'est une de ces procédures qui est lourde, etc. Finalement, ça l'est pas tant que ça, mais c'est un peu méconnu. Donc, c'est un petit peu l'axe qu'on essaye de cibler.
Et donc, comment ça se matérialiserait concrètement?
Concrètement, ça se matérialiserait avec une application. On mise sur le fait que là, on pense à des publicités plutôt visuelles et statiques. Donc tout ce qui n'est pas une radio et qui passe
podcast.
À la télé, un podcast non plus. Donc ce serait plutôt des publicités, par exemple, qu'on voit un petit peu dans la vie de tous les jours, je dirais dans le métro, dans les transports en commun, sur des affiches de bus, donc même sur Internet finalement aussi. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on les voit, eh ben, du coup, via l'application, tu peux prendre une photo. Et ensuite, tu as un parcours qui te permet en fait de t'aider à caractériser la plainte le plus précisément possible, et du coup là c'est vraiment l'approche liée design et droit pour essayer de s'y retrouver. Donc legal design, voilà, il y en a quelques experts dans la team, c'est moi, c'est pas trop mon champ d'expertise, mais toujours est-il que c'est en l'idée en fait de rendre les choses simples. En fait, et donc du coup c'est réapproprier en fait ces droits, donc la possibilité de déposer une plainte, etc. Et après on essaie d'ajouter donc un parcours utilisateur le plus fluide possible. Et à côté de ça, potentiellement, l'idée, c'est d'ajouter, par exemple, en fait, si cette publicité a déjà été signalée, l'idée, c'est justement, une fois les premiers champs remplis, c'est de pouvoir détecter, est-ce que c'est pas cette pub-là? Donc, on fait des suggestions de ce que c'est pas cette pub-là. Si oui, ben, en fait, ça permet d'auto-compléter une certaine partie. Et ensuite, la plateforme, enfin, du coup, l'application, un peu à l'image d'un fil d'actualité, un petit peu scroller, et voir les dernières qui ont été mises en avant, les plaintes qui ont été déposées. Dire, bah tiens, pour cette publicité, il y a eu X plaintes, etc. D'avoir des retours un peu là-dessus, puis essayer de catégoriser selon les secteurs, finalement, genre l'automobile, l'alimentation, etc.
Ok, et donc je comprends bien que ce que vous voulez, c'est vraiment simplifier le dépôt de plainte. Et derrière, imaginons que la plainte est reçue. Comment ça se passe? Enfin, quelles sont les prochaines étapes?
Ouais, complètement. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'en fait, il y a et simplifier, j'ai oublié d'évoquer le volet, en fait, mieux qualifier la plainte. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, les publicités qu'on trouve d'une façon ou d'une autre abusive, on peut déposer une plainte auprès du jury de déontologie publicitaire, qui est un sous-organisme de l'ARPP. J'ai plus exactement l'abréviation du sigle en tête, mais toujours est-il que du coup, c'est une autorité peut-être professionnelle. Donc là où il peut y avoir un petit peu de l'ambiguïté sur sur le rôle qu'ils peuvent jouer, parce qu'ils peuvent être à la fois juge et partie. Oui. Pour autant, l'idée, c'est justement, enfin la mission qui leur est déléguée, je sais peut-être dans le texte de loi, c'est de donner un avis sur ces plaintes. Et donc, plus elle est qualifiée, plus il y a des chances qu'elle soit mieux traitée. Mmh. Parce que si je dis juste, moi, je trouve pas ça cool, il y a peu de chances que ça aboutisse. Ouais. Surtout que c'est pas des processus qui, a priori, en fait, mènent à beaucoup d'interactions, en fait, entre la plainte et le jury. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est de pouvoir justement, en fait, qualifier au maximum, la déposer. Le processus, c'est vraiment, in fine, ça se passe par remplir un formulaire ou envoyer un mail. Donc, du coup, on tente ces deux approches-là. Après, demain, on peut imaginer qu'en fait, ça peut aussi leur faciliter le traitement. Ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, à l'image de leur site internet et des avis qu'ils publient, c'est pas forcément toujours hyper, catégorisé. Enfin, du coup, finalement, récupérer l'information des avis qui ont été rendus, c'est pas du tout structuré, pas très bien structuré. Donc, ça laisse penser qu'en fait, idem le traitement derrière. En fait, je pense qu'ils le font un petit peu au fil de l'eau. Et l'idée, c'est qu'avec des applications comme ça, et puis bah, toutes les pubs qui sont relatives à du greenwashing qu'on peut voir, bah, ils vont peut-être recevoir beaucoup plus de plaintes, et il faudrait peut-être leur faciliter la vie pour la traiter. Mmh. Donc, en fait, on peut imaginer après le rôle inverse. Là, on focus vraiment citoyen, parce que de toute façon, faut bien commencer par quelque chose. Mais en fait, une fois on pourrait avoir l'autre côté de la plateforme, en fait, qui pourrait servir à ce jury pour dire, bah tiens, en fait, ces plaintes, en fait, bah, c'est des plaintes qui sont relatives à la même pub. Ça prémâche un petit peu le travail et ça permet au jury de se concentrer sur sa vraie valeur ajoutée. Autre élément, je redécouvre les arguments au fur et à mesure, mais un autre élément aussi qui est assez tangible, c'est qu'en fait, c'est important, en fait, de pouvoir les traiter le plus rapidement possible. Parce qu'une campagne de pub, c'est l'affaire de quelques mois.
Oui.
Donc le jury se doit de les traiter dans les deux mois, il me semble. Mais en fait, plus ça traîne, moins en fait l'avis est pertinent. Ouais. Parce que derrière, en fait, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises que ça dérange pas forcément en fait d'avoir un avis négatif. Alors quoique l'image de marque, en fait, ça, Encore faut-il que ça se sache. Donc il y a un peu le côté bulle, parce que là sur une application, on peut le voir, on peut partager. Tiens, on va inciter à dire, tiens, j'ai déposé une plainte pour tel truc. On peut le partager sur les réseaux sociaux. Oui. Ce genre de feature qui pourrait.
Ça peut avoir ça peut vraiment influencer aussi l'attitude des marques.
Exactement, ouais. C'est ça. Ouais. Et du coup, après, c'est pas pour aller comme bâcher les entreprises, c'est pas du tout la volonté, parce qu'en fait, il y en a qui le font mal, je pense, sciemment ou pas sciemment, ça c'est un peu, faut voir. Mais justement, l'application, vu que nous, on essaie de faciliter le parcours, il y a aussi un petit guide de ressources, en fait, et finalement, les ressources qu'on utilise, c'est par exemple des ressources de l'ADEME, qui ont justement mis en place une plateforme et des guides pour accompagner les entreprises à avoir le bon discours marketing, donc ça permet, en fait, de réorienter, finalement, de donner à chacun
un peu les bonnes pratiques pour que les entreprises puissent, si elles le souhaitent, mieux communiquer et éviter ce genre de situation qui est défavorable pour tout le monde.
Finalement. Exactement, c'est défavorable pour tout le monde, donc l'intérêt, c'est de faciliter un petit peu tout ça, et donc les trois, on va dire, groupes d'acteurs, les premiers, c'est les citoyens, ensuite, il y a les entreprises, ça passe par le jury, mais si ça prend de l'ampleur, tout le monde a gagné, entre guillemets, donc puis de se concentrer sur des vrais enjeux, quoi. Donc,
oui, c'est vrai.
Ça peut être cool.
Ça peut permettre d'avancer sur son business.
C'est ça.
Et alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'ambiance au sein du Global Legal Hackathon et quels ont été un peu les temps forts pour toi, pour vous?
Le premier temps fort, c'était quand même, je pense, l'intro hier, c'était quand même super cool. On était un peu pris au dépourvu avec les on se disait, ah, en fait, avec les pitchs, ouais, c'était fallait un peu du tac au tac. Alors, il y en a qui avaient l'air assez plus ou moins préparés, donc on se disait, ok, nous, en fait, on est arrivés comme des énormes touristes, mais c'est pas trop grave. Ça faisait très bonne ambiance, en fait. Des fois, on imagine le hackathon comme un armada de geeks concurrentiels qui s'enferme dans une salle et qui n'en sort pas à moins d'étouffer avant le rendu. Donc là, du coup, j'ai trouvé ça hyper bienveillant, en tout cas. Donc je me dis, c'est trop cool. En plus, bon. Il s'avère qu'on est quand même dans des locaux, ils sont quand même assez incroyables. J'avoue que j'ai pas fait 50 000 entreprises, mais
tout le monde a envie d'être adopté là.
Ah ouais, je pense que c'est ça. Là, on se dit, mais waouh, ils ont une vue incroyable, les locaux, c'est agréable. Donc le cadre est cool, voilà, on a même à manger.
Donc, on a à manger, c'est très important. Et alors, qu'est-ce que t'as appris de cette expérience? Qu'est-ce que ça t'a apporté?
Je pense deux choses principales. Je pense que ce que j'ai pu un petit peu découvrir, c'est le côté justement approfondir ma connaissance des processus liés à la dénonciation du greenwashing et comment ça se construit et finalement qu'est-ce qu'on peut qualifier de ou pas green. Enfin, c'est justement, c'est un terme qui est galvaudé, donc faut faire attention. Donc ça m'a permis un peu d'expertise métier sur ce sujet de communication. Et après, l'autre aspect, finalement, c'est aussi parce qu'on n'avait pas de designer dans le groupe, c'est qu'en fait, on construit une maquette un petit peu, et on peut faire pas mal de choses avec pas mal d'outils différents, et ça, c'est super cool, en fait, de découvrir ce volet-là qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et je pense que ça me resservira ailleurs, parce que ça permet vraiment de faciliter la construction d'un discours, d'expérimenter des choses. En fait, on se dit, en 2 jours de travail, on peut très bien.
Si tu peux faire ça, je pense que ça casse aussi des barrières psychologiques un peu qu'on peut avoir sur finalement, ah non, mais ça, je connais pas, donc je suis pas capable de le faire. Exactement, et en fait, là, t'es obligé.
Ouais, on est obligé. Puis après, c'est un enjeu dans le cadre d'un hackathon, donc ça reste bienveillant. Ça. Si ça marche pas, c'est pas grave. Donc ça, c'est cool et on est plutôt satisfait. on galère un peu, mais c'est cool. Ouais.
Donc de nouvelles compétences. Quoi.
Ouais, je pense que c'est nouvelles compétences.
Ouverture
ouverture sur d'autres sujets. Ouais.
Ok, trop bien.
Merci beaucoup pour l'échange.
Merci.
Alors, pour cette nouvelle interview, j'accueille Emeline Bocherel. Alors, Emeline, est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît?
Bonjour à tous, Emeline Bocherel. Merci beaucoup, Laetitia, pour cette interview. Alors, je suis avocate fiscaliste. Moi, j'ai monté mon cabinet il y a 3 ans maintenant sur Nantes. Je suis également présidente de l'incubateur de Nantes et ravie aujourd'hui de participer au Legal Hackathon.
Top. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de participer au Global Legal Hackathon?
C'était pour plusieurs choses. Il y avait le côté un peu défi qui était intéressant. Il y avait aussi le côté équipe, puisque l'équipe avait effectivement la volonté de vouloir aussi faire un projet sympa. Quitte à monter un incubateur, autant vivre au moins une fois un hackathon. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir été informée de l'existence de ce Global Legal Hackathon grâce à la personne à laquelle je suis en train de parler. Et j'avoue avoir été bien tentée par l'aventure. Et puis c'est vrai qu'on avait plein de petites idées pour le cabinet. Donc on s'est dit, pourquoi pas, comme ça on pourra se monter une petite équipe multidisciplinaire, et puis voir s'il y a certains des projets qui intéressent et essayer de les monter. Voilà.
Et alors, dans ton équipe, du coup, donc je comprends qu'il y a des gens qui travaillent avec toi dans ton cabinet.
Yes.
Et il y a aussi des personnes qui sont extérieures.
Ouais.
Alors, est-ce que tu peux juste brièvement nous dire quels sont un peu les profils de compétences?
On a Marge, qui est une élève avocate au cabinet. On a Camille, qui a rejoint le cabinet pour nous accompagner plutôt sur des questions administratives, mais qui à la base est aussi une étudiante en droit, et un regard aussi neuf qui était intéressant. Ouais. Donc toutes les deux sont du cabinet. Sinon, j'ai eu aussi la possibilité d'être mise en contact avec 2 étudiants en web marketing en première année, donc avant l'année de spécialisation, donc l'un plutôt branché design et UX design, et l'autre plutôt branché management de projet, et d'ailleurs il a déjà lancé un projet dans le e-sport, donc c'est pas rien.
Okay.
Quand même.
Oui,
et notre dernière recrue de la bande, qui est une des dernières en plus qui était rentrée, c'est Marie, qui est une élève avocate en propriété intellectuelle.
Et ben, trop bien. Voilà. Et alors, sur quel projet vous avez choisi de travailler pendant ce week-end?
Alors après, mûrs échanges, puisqu'on avait à peu près une dizaine de projets, donc il fallait choisir lequel était le plus sympa. En fait, on est parti plutôt d'un cas client, c'est-à-dire nous, puisqu'on avait envie toujours d'aller plus loin dans l'accompagnement de nos clients et surtout de faciliter la communication. Et c'est vrai que maintenant que mon équipe s'agrandit, je vois vite les difficultés d'être la seule à récupérer des informations. Donc j'ai des clients qui m'envoient effectivement des messages sur diverses applications, les WhatsApp, les Telegram et tout ça, en dehors de la question du secret professionnel. Se pose aussi la question de la centralisation des informations. Puis vraiment réussir à trouver un outil collaboratif. Et c'est vrai qu'il y avait plein d'outils différents qui existaient. On a beaucoup de logiciels métiers internes, je veux dire, mais par contre, on trouvait que la relation client était souvent plus difficile, on n'avait pas quelque chose d'un peu plus ludique, un peu plus simplifié, et on s'est dit, si on se lançait sur un projet comme ça, et effectivement, maintenant, l'idée, c'est se dire, si on peut le développer pour nous, pourquoi pas le développer pour d'autres.
Et donc, si je comprends bien, votre outil, c'est un outil de gestion de la relation client?
Alors, c'est double. En fait, c'est pas pour les nouveaux clients. C'est vraiment l'idée de créer en fait une application pour un cabinet d'avocats. Un peu comme un site internet, mais optimisé. Les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, on les connaît nous en tant qu'avocats. On a beau essayer de travailler pour, mais ça a du mal. Les problématiques, c'est le client qui part du principe que nous en tant qu'avocats, on ne pose pas sur les dossiers. Ils sont persuadés qu'on n'avance pas sur les dossiers. C'est pas le cas, mais c'est juste qu'on a des informations dans tous les sens. Parfois, le client a pas le sentiment qu'il nous a pas transmis une certaine pièce. C'est pas où on en est. Et c'est vrai que nous, on a commencé à réfléchir à des process sur, par exemple, tu veux créer ta société. Comment ça se passe? Nous, on avait identifié une dizaine d'étapes. C'est dire au client, là, on est actuellement à cette étape-là. Pour le moment, cette étape-là, elle est un peu bloquée parce qu'on a besoin que vous nous transmettiez d'autres infos. Quand on aura ces infos-là, on passera après. Et comme ça, le client sait qu'on avance sur ses dossiers. C'est aussi peut-être la simplification, si les paiements en ligne, c'est tout bête, mais aujourd'hui, 27% des logiciels de gestion interne proposent un système de paiement en ligne. Et aujourd'hui, on a à moins de 30% des cabinets d'avocats qui ont la possibilité d'avoir un outil qui facilite le paiement des honoraires. Quand on sait à quel point on galère après le paiement de nos honoraires, pas parce que les clients veulent pas nous payer, mais juste parce qu'ils veulent enregistrer un RIB, nous envoyer un chèque, on est dans un autre monde. Et donc, c'est effectivement essayer de simplifier tout ça, donc proposer aussi un petit outil là-dessus, un outil de calendrier aussi, avec les événements importants du cabinet, par exemple, non fiscalité, de rappeler aux clients que à telle date, faut pas qu'ils oublient de faire la déclaration de revenus. Enfin, c'est des choses qui sont toutes bêtes, mais voilà, un outil qui est un petit peu intéressant, qui est plus ludique, qui permet de pouvoir surtout échanger de façon sécurisée avec les clients et de façon ludique, comme on utiliserait un WhatsApp. Permettre aussi tout simplement aux autres membres de l'équipe qui peuvent potentiellement, par exemple, si c'est une question, est-ce que vous pourriez m'envoyer ma facture ? Non, déjà, ce serait bien que les factures soient centralisées sur l'appli, mais en dehors de ça, c'est est-ce que vous pouvez nous envoyer la facture ? En fait, j'ai n'importe qui dans mon équipe qui peut transmettre la facture au client.
J'ai bien compris les différentes fonctionnalités que vous envisagez. Ouais. Aujourd'hui, il existe un certain nombre d'outils qui proposent ces fonctionnalités. Comment vous différenciez ?
En fait, l'idée, c'est pas forcément de se différencier, parce qu'effectivement, on a plein d'outils qui existent hors du monde du droit.
Et dans le monde du droit aussi.
Et aussi dans le monde du droit, avec tous les outils de gestion interne ou externe. Enfin, externe, il y en a un peu moins, mais surtout interne. En fait, l'objectif, c'est pas de remplacer.
Donc c'est plutôt faire le lien entre tous les outils qui existent déjà pour créer quelque chose qui en fait regrouperait un peu toutes les fonctionnalités.
C'est ça. C'est pas forcément
de recréer un outil de.
C'est ça. L'idée, c'est pas de créer quelque chose de nouveau, c'est de créer quelque chose de complémentaire. Et voilà, l'objectif, ce serait de pouvoir permettre effectivement la centralisation des informations. Et puis, on va pas rajouter des outils aux avocats quand on en a déjà
c'est clair.
Et on veut plutôt permettre à ce que, plutôt qu'utiliser 5 outils différents, 15 outils différents, 43 outils différents, c'est d'en utiliser qu'un seul.
Et alors, est-ce que tu peux nous décrire l'ambiance au sein du Global Legal Hackathon et puis aussi quels ont été les temps forts pour toi et puis pour ton équipe?
Déjà, l'ambiance, faut quand même se dire qu'on est dans un cadre qui est juste dingue, hein.
On a une chance incroyable.
Ce qui fait que, comme on a un espace top, on a plein de petites salles différentes pour travailler, pour sortir, pour manger, on peut vraiment s'amuser. Donc, déjà, rien que pour ça, c'est déjà fou. Ensuite, c'est vrai qu'on a quand même été très bien accueillis, donc c'est très agréable aussi. On est très bien coachés, on a une question, on va voir. Voilà, on n'a pas non plus tout le temps des gens qui sont derrière nous. Donc, on a quand même la possibilité d'être hyper autonome, en fait, dans l'organisation. Et c'est vrai que voilà, il y a des profils complètement différents. Ça parle toutes les langues, c'est génial.
Ouais, c'est trop bien.
On a des Néerlandais, moi qui est une collaboratrice néerlandaise, des fois là, ils entendent, c'est drôle. Donc on a vraiment des nationalités de partout. C'est vrai que c'est chouette cette possibilité de ce côté un peu coworking. Et puis nous en mode équipe, c'est vrai que pour certains on se connaissait pas. Donc ça a permis aussi de se connaître, de briser la glace, de casser les codes. C'est génial de pouvoir confronter tout ça, d'avoir des lieux qui nous permettent de ça, puis de s'amuser par exemple avec les espaces de réalité virtuelle. On a été les premiers à essayer Notre-Dame de Paris,
c'est trop chouette,
juste
ça.
Génial. Et ces moments-là, on les oubliera pas demain.
Et alors, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ?
On plombe un peu de fatigue, hein. Mais non, ça conforte que la capacité à pouvoir travailler avec du multidisciplinaire. Et ce qui est top, c'est qu'on a quand même des profils complètement différents, et ça c'est top de se dire, en fait on est en capacité, nous, avocats, de pouvoir discuter avec des devs, avec des codeurs, avec des UX designers, et pouvoir faire des choses qui sont top. Donc ça, c'est génial.
Donc une super expérience.
C'est ça. Et puis surtout, merci beaucoup, vous êtes tous géniaux, vous nous coachez dès qu'on a besoin, et ça, c'est vraiment top de pouvoir...
On avait à cœur que justement, il n'y ait pas de limite dans le développement des projets, et que tout le monde puisse trouver finalement des compétences complémentaires. T'en as parlé aussi, c'est vraiment un élément hyper important du Global Legal Hackathon, de travailler avec d'autres profils, des personnes qui ont des compétences différentes, soit au sein de son équipe, soit grâce au mentor. Et je trouve que, effectivement, c'est assez hallucinant. Enfin, pour l'avoir vécu, je trouve que ça a créé des liens vachement forts en un temps hyper réduit. Et je trouve que c'est une très belle expérience. Enfin, je suis convertie à la cause. Donc.
Et puis, ça donne des envies. C'est vrai que moi, ça m'arrivait d'être dans l'autre sens, d'être plutôt jury, en fait. Là, c'est vrai qu'à l'inverse, être vraiment dans le hackathon, en mode vraiment exercice, et en 2 jours et demi, essayer de lancer un truc, et vouloir que ça passe, on y croit tellement qu'en fait, on dit que peut-être qu'en fait, demain, on va vraiment le développer, en fait.
Ouais, non, mais c'est ça, c'est génial. Enfin, c'est une effervescence, c'est une stimulation intellectuelle, Puis c'est passionnant.
Certains disent sky is the limit, là, on sent que c'est même plus ça, en fait, on a dépassé, là. On est en mode Elon Musk, là, on est parti dans l'espace, là.
En plus, on est au 5e étage, là.
C'est parfait.
Avec une vie incroyable. Bon, merci beaucoup, Emeline. Et que le meilleur gagne.
Merci.
Pour cette nouvelle interview, j'accueille Raphaël Bastian. Bonjour, Raphaël. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement ?
Bonjour, Laetitia. Tout à fait. Donc, je m'appelle Raphaël, j'ai 24 ans. Je suis étudiant en Master 2 en droit des activités spatiales et télécom à Saclay. Et je suis adepte de la Legal Tech et de son univers.
Et alors, pourquoi t'as choisi de participer au Global Legal Hackathon à Paris?
Alors, parce que je connaissais déjà le Global Legal Hackathon, notamment celui de Londres qu'on a fait ensemble. Je souhaitais voir un petit peu l'univers du Global Legal Hackathon en France. Et apparemment, ça a l'air de plaire à beaucoup de gens.
Est-ce que ça te plaît à toi?
Moi, ça me plaît à moi parce que j'ai une super team. Et puis, on est très bien accueilli chez Ubisoft. Et les idées fusent, donc c'est intéressant.
Et alors, sur quel projet vous avez choisi de travailler avec ton équipe?
Alors, nous, on bosse sur le projet qu'on a nommé Frameworks, qui vise en fait... à améliorer la visibilité des obligations légales, la compliance des entreprises, des informations qui sont aujourd'hui un peu éparses. On souhaite rassembler ça, notamment pour augmenter les performances des directions juridiques.
Et en quoi ça peut améliorer les performances des directions juridiques, du coup?
Ça permet de les améliorer parce qu'elles vont pouvoir se comparer à d'autres entreprises avec qui elles sont, par exemple, en projet de contrat, et également, en fait, de centraliser en fait des informations qui aujourd'hui sont sur des sites assez divers.
Donc c'est pour aider les directions juridiques à être plus compliant.
C'est ça, et également en fait à avoir des informations juridiques pures. C'est vraiment l'alliance de la compliance et du juridique qui sont des éléments aujourd'hui des entreprises qui parfois ont du mal à communiquer.
Et donc c'est pour rendre visible tout ça?
C'est ça, pour les directions juridiques et au sens large, aux entreprises, direction des achats par exemple aussi.
Et l'enjeu derrière, enfin votre objectif?
L'objectif, c'est d'améliorer la transparence des informations, de compliance et de juridique pour améliorer justement la conduite des entreprises sur ces sujets.
Ok, et alors ça se matérialiserait comment?
En fait, on est en train, à l'heure où je parle, de le finaliser. Mais concrètement, c'est donc un site internet sur lequel tu vas venir faire une recherche. Tu vas arriver sur la première page qui est accessible à tous avec certains résultats. Pour avoir des résultats avec plus de valeur, et notamment de l'analyse derrière cela, comme je disais, une comparaison avec une entreprise tierce, eh bien, tu vas te connecter à ta page et contre une éventuelle rémunération.
Et donc, tu aurais accès aux infos d'autres entreprises.
Tout à fait. Il faut savoir que pour la plupart, elles sont publiques. Ce qui est intéressant, en prenant l'exemple de l'Open Data, des décisions de justice, qui est un vaste projet qui est en cours. J'espère bien que finalement, un jour, on aura accès à une sorte de cartographie du contentieux des entreprises et ça sera intéressant de le mettre en valeur.
Donc, c'est aussi les décisions qui ont pu être rendues en faveur ou à l'encontre d'une entreprise.
Tout à fait. Nous, on souhaite vraiment faire la transparence sur les obligations légales, juridiques, la cartographie du contentieux et la partie de la compliance. Le but étant d'avoir une vue qui est non biaisée et qui va être scorée, notée, notamment, par exemple, en compliance, sur la conduite.
Le respect des obligations réglementaires.
Tout à fait.
Ok. Donc, en fait, ce serait un peu une fiche de bonne conduite, qui permettrait d'apprécier, finalement, la bonne conduite d'une entreprise et un peu son état des lieux.
Tout à fait. Et avoir la possibilité de s'améliorer avec notamment un espace de travail collaboratif qui vise justement à améliorer la communication entre différents départements.
Et alors au sein de votre équipe, est-ce que vous avez des profils différents? Quelles sont les compétences que vous avez?
Alors concrètement, je dirais qu'on est quasiment tous juristes, exception de quelques-uns, en tout cas de formation. Donc sur ce point-là, on se ressemble. Après, on l'a vu aujourd'hui, on a bien évolué grâce aux différents points de vue qu'on a. C'est vrai que Com, par exemple, lui est quelqu'un qui est plus penché vers le business. Ayel et Alban vont être plus centrés sur les questions de droit et les questions de RSE, justement. Puis avec Louis, qu'on a rencontré ici, lui, c'est notre maquetteur fou qui nous conduit en fait sur ce travail-là. On a un bon esprit d'équipe, plutôt complémentaire, tout se passe bien.
Et alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu l'ambiance au sein du Global Legal Hackathon à Paris, là?
Ouais, tout à fait. Alors, moi, je trouve qu'il y a une très bonne ambiance, studieuse et à la fois plutôt fun et relax. On a été très bien accueillis, l'organisation est top et les gens aussi.
Trop bien. Et quels ont été un peu les temps forts pour toi?
Alors, pour n'en citer qu'un, je dirais que c'est l'aide des différents mentors qu'on a eu dans la journée. Honnêtement, ça permet de remettre en perspective le projet, notamment durant cette phase de brainstorming, ce qui nous a conduit à finalement, là, depuis une heure, comprendre vraiment le besoin des futurs clients qu'on souhaite toucher et d'apporter les bonnes solutions. Plus particulièrement, grâce à deux designers, on a pu vraiment comprendre que notre maquette devait sur certains points être vraiment épurée, quitte à ne pas pouvoir montrer tout ce que l'on souhaite avoir.
C'est la déformation professionnelle des juristes.
Tout à fait.
Ça vous a vraiment aidé.
Ah oui.
C'est le but, donc tant mieux.
Beaucoup de conversations très enrichissantes.
Ouais, bah, c'est chouette parce qu'ils ont tous des profils et des compétences différentes et c'est ça qui permet d'enrichir effectivement les projets.
Tout à fait.
Avec un regard neuf. Et qu'est-ce que cette expérience, du coup, t'a apporté, t'a appris?
Avant tout, c'est une aventure humaine. C'est surtout ça que je dois retenir.
Et est-ce que tu t'es prêté au jeu des pelotes de laine là-bas?
Effectivement, je m'y suis prêté. C'est une des attractions d'Ubisoft.
Alors, tu étais plutôt lapin quoi, toi?
Alors, moi, j'étais plutôt lapin coquin, je crois.
Et alors, après, le reste, c'était quoi?
Ah ben là, je dis pour gagner, hein, je crois, quand même. Et voilà.
Tu veux repartir avec quoi?
Avec le trophée.
Et ben écoute, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup, Raphaël.
Ben, merci à toi.
Donc, on est aujourd'hui dimanche matin, et pour cette nouvelle vague d'interviews, j'accueille Émilie Luzzi. Alors Émilie, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît?
Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Alors moi, je suis élève avocat, je suis spécialisée en droit des sociétés, et je suis là aujourd'hui parce que j'adore l'innovation légale, j'adore les legal tech, et donc c'est vraiment un milieu qui me passionne.
Et donc, sur quel projet vous avez choisi de travailler, toi et ton équipe?
Alors avec mon équipe, on est parti d'un constat très simple. On est 3 élèves avocats dans mon équipe et en fait, on s'est aperçu que le temps d'attente des avocats en audience était vraiment très long et pas du tout rentabilisé puisque les avocats attendent et ne peuvent pas travailler dans les salles d'audience. Donc, on est parti de ce vrai problème pour essayer d'apporter une solution. Notre idée, en fait, serait d'organiser le rôle en amont de l'audience. Aujourd'hui, ça se fait vraiment tardivement puisque le rôle est présenté le matin même de l'audience et en fait, il n'est pas du tout hiérarchisé. Les avocats qui plaident, qui déposent leur dossier ou qui le renvoient passent les uns après les autres. Et l'idée, en fait, ce serait que ce rôle soit établi en amont de l'audience pour pouvoir vraiment l'optimiser.
Avec des créneaux horaires, du coup?
Exactement, avec des créneaux horaires et de faire passer tous les dossiers qui prendraient le moins de temps en amont, par exemple les dépôts de dossiers, les renvois et que les plaidoiries soient automatiquement à la fin. En fait, aujourd'hui, c'est déjà le cas, mais tout ça se passe justement suite à l'appel des causes. Et en fait, on aimerait que cette étape n'ait pas lieu au moment même de l'audience, mais que le rôle soit déjà organisé dès le départ, ce qui ferait gagner un temps déjà considérable à chaque audience. Donc c'est du temps de gagner pour les juges, pour les greffiers et aussi pour les avocats. Et l'idée serait de compléter en fait ce rôle optimisé par un suivi en temps réel pour permettre aux avocats de se déplacer quelques dossiers avant le leur.
Et donc ça se matérialiserait comment?
Alors en fait, on aurait une interface. Donc ça c'est tout les développeurs de mon équipe puisqu'il y a du coup 3 développeurs en plus des 3 élèves avocats.
Et eh ben quelle
ouais, une équipe de choc qui du coup en fait créerait des algorithmes pour optimiser le classement du rôle et ensuite le greffier aurait un rôle fondamental mais ça lui simplifierait aussi la tâche. Il aurait en fait à cliquer sur des boutons pour choisir une date de renvoi ou bien une date de délibéré en fonction du dossier. Et au moment de cliquer sur ce bouton, en réalité, ça enverrait des notifications au dossier suivant pour dire à l'avocat que son dossier va bientôt passer.
En disant « votre dossier passera dans tant de temps ou à telle
exactement,
heure,
etc. » Exactement. Et donc en fait, il y aurait un visuel et des notifications directement sur le téléphone et potentiellement sur les ordinateurs également.
Top, c'est vrai qu'il y a vraiment une grosse perte de temps. Je pense qu'on a tous vécu ça, l'attente aux audiences, le fait que tu sais pas à quelle heure tu vas passer, tu sais pas combien de temps ça va prendre.
Et, ouais, ça prend temps fou.
Et parfois tu attends, souvent d'ailleurs, tu attends beaucoup plus que le temps de passage.
Exactement, c'est hallucinant que ça fonctionne toujours de cette façon. Et il y a un vrai problème de rentabilité et ça crée aussi, je pense, beaucoup de frustration. En fait, tout le monde serait gagnant parce que l'avocat serait sûrement apte à mieux plaider son dossier, donc à mieux défendre son client. Et puis, voilà, ça simplifierait la tâche du greffier, en fait, puisque notre application prévoit des fonctionnalités également pour le greffier pour qu'il n'ait pas à retranscrire par écrit certaines choses, comme par exemple les dates de renvoi, les dates de délibéré. Et en fait, tout serait automatisé. Et l'idée, ce serait même d'aller encore plus loin, puisqu'on sait aujourd'hui que la date de délibéré est notée dans un petit coin du dossier par l'avocat. En fait, en cliquant sur ce bouton « date de délibéré » et en choisissant la date, ça enverrait un mail automatique à l'avocat et ça le rentrerait potentiellement aussi dans son agenda.
Oui, donc il y a plein de possibilités
d'optimisation
qui sont liées aussi
exactement,
à ça.
Exactement, oui.
Mais super idée. Et donc, ça fait quoi de travailler avec des développeurs? C'était la première fois pour toi?
Alors, pour moi, c'était la première fois. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'ils nous apprennent plein de choses, des choses hyper utiles, même qui n'ont rien à voir avec le développement, mais c'est des petits détails des fois, mais déjà, en fait, on se rend compte qu'en collaborant comme ça, on apprend des choses qui sont hyper utiles et qui font gagner un temps fou. Et en fait, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir cette vision transversale et d'avoir même leur vision du projet. Ils ont des réflexions qui sont vraiment très pertinentes et qui permettent en fait de se dire « Ah oui, on pourrait rajouter ça, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça ». Donc une fois qu'ils ont compris la vraie problématique, pour le coup, qui était vraiment axée sur les avocats, le milieu juridique...
Oui. Oui, il y a ce temps de compréhension du domaine, du sujet, etc.
Et une fois qu'ils ont pu percevoir toutes les subtilités, on va dire, du projet, ils ont vraiment été moteurs pour proposer beaucoup de choses.
Et les mentors vous ont également bien aidé au cours de l'événement. Vous avez trouvé que c'était utile?
Oui, oui, on a été aidé par plusieurs mentors qui nous ont posé des questions fondamentales. Nous, la difficulté, ça a été plus sur le modèle économique. Oui. On nous a beaucoup posé cette question. Et c'est vrai que de prime abord, quand on est dans un événement comme The Lusion, on réfléchit à beaucoup de choses, mais pas oui. forcément le modèle économique, alors que c'est fondamental. Donc en fait, ils nous ont amenés à des questions vraiment très pertinentes. Donc on a essayé au mieux de réaliser le business model Canva pour assurer la viabilité du projet et on apprend vraiment plein de choses.
Donc une belle expérience.
Absolument.
Et est-ce que tu peux donc nous décrire un peu l'ambiance au sein du Global Legal Hackathon et les temps forts pour toi et puis pour ton équipe?
Alors c'est une ambiance qui est absolument géniale. Les locaux sont juste magnifiques. En plus, on a un merveilleux soleil, donc on peut pas rêver mieux. On mange sur des terrasses, on bronze et on travaille, mais on travaille vraiment dans la bonne humeur. Tout le monde est content, tout le monde est motivé, tout le monde est souriant. C'est difficile de faire une ambiance de travail vraiment plus agréable. C'est génial. Les temps forts, je pense que il y en a eu et il va y en avoir encore. Pour moi, le temps fort, voilà, ça va être le pitch. J'ai hâte de voir le projet des autres équipes et j'ai hâte aussi de voir ce qu'on va réussir à rendre. Mais c'est vraiment une super expérience. Comme on est vraiment, en fait, on est vraiment à fond pendant ces deux jours. Et c'est vrai que, comme c'est un concentré, on arrive à vraiment échanger sur beaucoup de choses. Et c'est vraiment, je pense, un propulseur d'idées. C'est un beau challenge et je suis sûre qu'on arrivera à présenter quelque chose à la hauteur de nos espérances.
Ouais, mais c'est vrai qu'on se rend compte que en fait, on le sait, hein, mais plus t'as de temps, plus tu mets de temps
Exactement.
À faire les choses. Et à contrario... Tu te rends compte, dans ce genre d'événement, je m'étais fait la réflexion aussi à Londres quand j'avais participé au Global Legal Hackathon, que en fait, tu peux faire un nombre de choses, mais hallucinantes, en un temps aussi réduit.
Et oui, en fait, plus on attend, plus on prend son temps aussi. Donc là, on essaye d'organiser au mieux les équipes. On a été aidés aussi pour le faire au mieux par les organisateurs, avec des petites checklists.
Et qu'est-ce que cette expérience t'a appris, t'a apporté?
Alors moi, j'avais jamais participé à d'événements de ce genre. J'ai appris beaucoup de choses, par exemple le business model Canva, tout ça, c'est vrai que c'est assez éloigné pour moi. Alors pourtant même que je fais du droit des sociétés et que j'accompagne des startups, donc en fait moi ça m'a déjà directement apporté personnellement pour mieux comprendre mes futurs clients. Donc ça déjà c'est vraiment une valeur ajoutée je trouve, et plein de partage, une super ambiance. Donc c'est vraiment quelque chose à faire.
Que du positif.
Que du positif.
Bon ben merci beaucoup Émilie.
Merci Laetitia.
Alors, pour cette nouvelle interview, j'accueille Marine Dubois. Bonjour Marine, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît?
Bonjour Laetitia. Alors, moi je suis avocate au barreau de Paris. Je suis avocate depuis à peu près une quinzaine d'années. J'ai cofondé une solution qui s'appelle Canoun, qui est aujourd'hui hébergée dans un cabinet d'avocats, qui travaille en coopération étroite avec une legal tech qui s'appelle Legal Place, et qui permet de délivrer à des clients qui sont des entreprises TPE-PME tout un ensemble de solutions dont ils ont besoin en juridique RH, en droit social.
Super, donc tu baignes déjà un peu dans l'innovation. Alors.
Exactement, depuis à peu près deux ans et demi, trois ans. Ouais.
Et alors qu'est-ce qui t'a donné envie de participer au Global Legal Hackathon?
Ce qui m'a donné envie de participer, c'est avant tout de pouvoir être immergé dans ce monde de l'innovation, du légal. Il faut être acteur de tout ce qui est en train de s'instaurer, sachant qu'il y a tellement de choses à faire,
ouais,
on est au début d'un monde qu'on dépoussière. Et puis, ce qui me plaît, c'est une forme de méthodologie de travail aussi, c'est-à-dire faire en sorte qu'en une trentaine d'heures à peu près, on puisse partir de rien, à peine une idée, une partie de l'équipe seulement, et pour finir sur un projet qui peut donner quelque chose.
Et alors, sur quel projet vous avez choisi de travailler, toi et ton équipe?
Alors, mon équipe est arrivée. Nous sommes arrivés à 5, avec l'envie de travailler à la base sur un sujet qui était les conditions générales de vente. Et puis, l'heure des pitchs est arrivée. Et puis, on a un jeune homme qui a pitché seul, élève avocat, sur sa volonté de créer un cabinet d'avocat dans le métaverse. Et alors là, ça a été le tsunami dans l'équipe. On s'est dit, mais c'est là où il faut être. Donc, on a
complètement changé
de sujet. Donc, le sujet est la création d'un cabinet d'avocats dans le métaverse, qui était vraiment, pour le coup, quelque chose qu'aucune personne de l'équipe ne maîtrisait. On avait tous entendu parler, mais bon, quelque chose qui est un peu de l'ordre de Matrix, hein, pas plus.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le métaverse, pour ceux qui connaîtraient pas?
Le métaverse, si je devais l'expliquer très simplement, c'est l'Internet de demain. Aujourd'hui, Internet, on le regarde devant un écran. Demain, on sera complètement immergé dedans. Donc, c'est l'immersion dans un monde virtuel qui est la prolongation du monde réel dans lequel on vit.
Donc, du coup, vous voulez créer ce cabinet d'avocats dans le métaverse, donc dans ce monde un peu virtuel qui est le prolongement du monde réel. Et alors, ça se matérialiserait comment?
Alors déjà, ce qui est fantastique, c'est que pour le coup, on part d'une page blanche. parce qu'on est en train de réinventer le métier de l'avocat. Et si on est dans l'innovation juridique, c'est aussi pour ça, pour essayer de réinventer la manière dont on travaille. Tout est possible, d'une certaine manière. Mais quand on dit que tout est possible, on n'a pas tellement de contraintes. Et on sait que la contrainte aide à avancer parfois.
Oui, c'est vrai.
Donc il a fallu, au début, partir sur une phase de recherche. De quoi on parle, où on en est, qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans le métaverse, sans parler du monde du droit, hein, qui n'y est pas du tout. On est en train de voir, il y a quelques... Il y a un cabinet français, il y a eu quelques expériences aux États-Unis. On n'est pas encore sur vraiment des expériences réelles qui permettent de générer du chiffre d'affaires. Voilà, on n'en est absolument pas là. Oui. En revanche, on sent qu'il y a une appétence, il y a une envie du retail, du luxe, du secteur de la culture, de l'art, vous savez déjà. Et tout ça, il faut l'accompagner. Et évidemment, le droit doit accompagner tous ces secteurs-là pour pouvoir s'organiser. Le métavers, c'est un terrain en friche, c'est un terrain sans frontières. Il n'y a plus d'espace, il n'y a pas de cadre juridique, absolument rien. Tout est à construire. Et évidemment, ce cadre réglementaire, mais l'avocat, il faut qu'il soit là dès le départ.
Alors attends, juste une précision. Du coup, vous voulez créer un cabinet d'avocats spécialisé dans le métaverse ou un cabinet d'avocats qui soit présent virtuellement dans le métaverse, ou les deux?
Les deux. C'est une vraie réflexion. Il y a plusieurs éléments. Il y a un, se dire que le métaverse va permettre de révolutionner le métier d'avocat. Révolutionner le métier d'avocat, ça veut dire révolutionner notre pratique.
Oui.
Notre façon d'exercer le métier. Ça, ça va être un énorme changement qu'il faut pouvoir déterminer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus pour nos clients? Comment? Qu'est-ce que ça va permettre? Il y a aussi l'expérience client que ça va bouleverser, leur côté.
Ouais, c'est clair.
Ces deux aspects sont essentiels. Et puis le troisième, effectivement, c'est de s'interroger sur quelle va être la part de droit natif dans le métaverse. De quoi on va pouvoir servir qui existe déjà dans nos réglementations, qu'on pourra adapter au métaverse? Qu'est-ce qu'il va falloir créer qui n'existe pas dans ce monde du métaverse, avec une des problématiques principales qui est celle de l'absence de territorialité dans un monde ultra connecté et mondialisé. En fait, on est obligé d'avoir une dimension hyper dézoomée dans laquelle on doit tous se projeter. C'est un peu la difficulté de ce sujet, c'est que c'est extrêmement abstrait. Et pourtant, c'est demain.
Oui.
Et demain, c'est pas 40 ans. C'est probablement, selon les études, déjà des évolutions en matière de visio augmentée, par exemple. Mm. Donc de vraiment cette capacité à pouvoir se projeter dans une salle de réunion virtuelle pour créer plus de convivialité, d'interaction et plus, de cohésion au sein de l'équipe. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui parce qu'on voit vraiment les limites de la visio telle qu'elle existe.
Oui.
Et on voit également ce mouvement qui ne cessera de se pérenniser, qui est que les gens vont travailler à distance.
Oui. Voilà.
Et la visio augmentée, qui est le premier pas du métaverse, ça, c'est dans quelques mois. Et puis ensuite, il y a d'autres étapes, évidemment. Il y a cette présence dans le métaverse via un cabinet d'avocats qu'on va créer, qu'on a déjà créé d'ailleurs, qui existe aujourd'hui dans le métaverse. Et puis plus il y aura de monde dans le métaverse, et plus tout ça aura de sens, plus il y aura des connexions qui vont s'effectuer, et plus il y aura de vraies fonctionnalités qui vont pouvoir s'exercer et qui vont complètement bouleverser notre métier.
Mm.
Avec des études qui montrent que à horizon 2026, c'est demain, il y aura un quart de la population mondiale qui passera au moins une heure par jour sur le métaverse.
Wow.
Pour consommer, pour interagir dans le cadre des relations sociales, pour travailler.
Ça touche à plein de pans différents, en fait. Et alors, est-ce que tu peux nous décrire l'ambiance au sein du Global Legal Hackathon?
L'ambiance extrêmement dynamique, très belle énergie, une capacité à pouvoir échanger avec des personnes qui sont dans cette mouvance et avec un partage d'informations même entre équipes qui est super vertueux.
Et qu'est-ce que cette expérience t'a apporté?
Alors, c'est pas fini. Ce que ça m'a apporté, c'est la confirmation qu'on peut faire beaucoup de choses à partir du moment où on est dans l'intelligence collective.
Eh ben, merci beaucoup. Puis, bonne chance pour le pitch.
Merci, Laetitia.
Donc, pour cette nouvelle interview, j'accueille Sabine Vanek-Lepic et Rémi Blaise. Bonjour à tous les deux. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter brièvement?
Alors, j'enseigne depuis longtemps, notamment à Sciences Po Paris, le règlement des différends, mais je suis aussi chercheuse et entrepreneuse. Et je suis aussi là dans le cadre du DU Legal Tech et Nouvelles Technologies. Et c'est un défi pour moi d'essayer de développer des idées tech avec le droit et d'apporter une brique de régulation.
Donc bonjour, moi c'est Rémi. J'ai créé du coup une société NFTech. Et ce qu'on fait, c'est que on accompagne plein d'entrepreneurs et plein de compagnies à créer ou développer une gamme NFT ou une collection NFT. Ça peut être en relation avec leur activité qu'ils ont déjà, ça peut être une démarche artistique, on a plein de profils différents.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le NFT ?
Le NFT, c'est un non-fungible token, donc c'est un jeton dans la blockchain qui représente en fait une propriété de quelque chose qui peut être numérique ou peut être physique ou peut être un mixte des deux. Et donc, ça peut être utilisé par exemple par les artistes pour financer un album, par exemple, être en relation directe avec leur communauté, ou ça peut être utilisé par une entreprise comme, par exemple, des cartes de fidélité. Ça peut être aussi la titrisation de plein d'objets, de plein d'usages. Par exemple, eh bien, des accessoires dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, concrètement, quand on joue, on accumule plein de choses, on trouve plein de choses dans l'univers, etc., des petits objets, des armes, qui peuvent, en fait, toutes être des NFT. Donc, le joueur va posséder lui-même et donc pouvoir échanger avec ses amis, faire des transferts, utiliser tous les outils de la blockchain. Donc, voilà.
Le projet sur lequel vous travaillez, c'est quoi exactement et comment ça se matérialise ?
Concrètement, aujourd'hui, il y a plein d'éditeurs qui sortent des nouveaux jeux où tous les objets à l'intérieur du jeu sont des accessoires, tout ce qu'on gagne, tout ce qu'on trouve dans le monde, etc. Et en fait, il n'y a aucune structure juridique qui protège les joueurs, aucun accompagnement, il n'y a pas de cadre légal pour accompagner cet usage des NFT, que ce soit au niveau éthique, que ce soit au niveau protection du joueur, que ce soit au niveau respect de la loi, respect des normes environnementales, puisque eh ben, la blockchain, il faut faire attention quand on utilise la blockchain, au support technique qu'il y a derrière. Il faut faire attention à utiliser des blockchains éco-responsables, comme Ubisoft le fait, par exemple, en se passant sur Tezos. Mais également, on peut compenser son impact négatif qu'on fait en jouant, finalement, en participant à la protection de l'environnement. Donc, nous, on a choisi un partenaire pour ce projet. Sabine, est-ce que tu peux nous en parler ?
On a choisi la Fondation de la Mer, qui veut sauver l'océan. Et donc, on s'est dit que l'idée, c'était play and save. Donc, notre brique, ce serait intégrer une brique à la fois d'encadrement légal de la location de NFT, mais avec une participation. Dès qu'on loue le NFT, il y aurait 5% reversé à la Fondation de la Mer.
Donc, votre projet, si je comprends bien, c'est d'encadrer la location de NFT.
Absolument.
Ok. Et quels sont les enjeux derrière ça ? Enfin, pourquoi on voudrait louer des NFT ?
La location d'NFT, c'est un cas d'usage qu'on a développé ce week-end. En réalité, c'est un cadre technico-légal qui est une brique qui peut s'intégrer, s'imbriquer avec tous les usages en fait qui est autour des NFT. Pourquoi on a envie de louer des NFT ? Bah, tout simplement parce que moi, si je suis un joueur débutant par exemple, j'ai passé beaucoup d'heures à jouer à Assassin's Creed, mais j'arrive dans ce nouveau jeu et je suis à la fac, j'ai plus autant de temps qu'avant pour jouer, etc. J'ai quand même envie de m'amuser avec mes amis qui, eux, ont beaucoup de temps et d'expérience dans le jeu. Et donc, j'ai envie de pouvoir, plutôt que de passer beaucoup de temps à construire mes objets, mon stuff, etc., j'ai envie de pouvoir simplement l'emprunter pour une heure, deux heures, et puis aller jouer avec mes amis, et puis le rendre à la fin de ces deux heures. Et donc, cet objet, eh ben, j'aurais peut-être emprunté à un autre joueur qui n'utilise pas cet objet en ce moment et simplement c'est un échange de pair à pair et c'est ça que permet la blockchain aussi. Donc voilà, mais après c'est vraiment un cas d'usage parmi tout ce qu'on peut faire avec les NFT.
Et qu'est-ce que ça apporte la couche blockchain NFT par rapport à juste un troc par exemple classique quoi ?
Absolument, bah dans un troc classique, l'idée déjà c'est que avant l'ère de la blockchain, les objets n'appartenaient pas réellement aux joueurs. En fait, ils étaient mis à disposition par l'éditeur du jeu aux joueurs, mais il n'y avait pas de propriété, il n'y avait pas d'interopérabilité peut-être entre les jeux. Ce qu'apporte la blockchain, c'est que, eh ben, elle ouvre un monde qui avant était fermé. Et donc, moi, j'ai un objet peut-être dans une liste, dans un jeu Ubisoft, mais je vais pouvoir peut-être l'utiliser dans tous les jeux de la licence. De tous les jeux, de plein de licences d'Ubisoft, parce que Ubisoft va créer tout un univers autour de ça.
Pour répondre à la question, c'est aussi un investissement d'acheter des accessoires et donner la possibilité de la location, c'est aussi une accessibilité à des gens qui économiquement, ça va les arranger. Donc l'idée, c'est vraiment de la prévention du risque des nouveaux litiges de la tech.
Et alors, est-ce que vous pouvez décrire un peu l'ambiance au sein du Global Legal Hackathon et les temps forts pour vous ?
Bah écoute, super ambiance, vraiment. Les gens sont géniaux, très sympathiques, très ouverts à montrer leurs compétences, à parler de leur métier. Une ambiance un peu plus studieuse sur la fin de ce hackathon,
oui,
où chaque équipe est concentrée à faire aboutir son projet ou sa démonstration.
Et puis des ateliers, des propositions, des ajouts de valeur pour chacun de nos projets. En fait, si je résumais, c'est une petite école, le temps d'un week-end, et organisé d'une main de maître par Laetitia Jacquet.
Pas uniquement, hein, c'est un travail d'équipe. Merci beaucoup, et puis bonne chance pour les pitchs.
Merci à vous, avec grand plaisir, merci.
Merci beaucoup.
Pour cette nouvelle interview, j'accueille Othman Alaoui. Bonjour Othman, est-ce que tu peux te présenter ?
Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation, pour l'interview. Alors effectivement, Othman Alaoui, 29 ans, aujourd'hui responsable de compte chez Actentia, éditeur de logiciels à Paris, notamment à destination des grands groupes. Nous créons tout simplement des sites internet.
Et alors, pourquoi tu as eu envie de participer au Global Legal Hackathon ?
Alors, c'était d'une discussion en fin de compte avec ma compagne Camille Guillard, qui aujourd'hui est élève avocate. Donc, elle a eu l'occasion notamment de participer au concours d'innovation de l'ERH, mais également au concours du CNB. Et finalement, par nos discussions, on en est venu à parler, on a fait découvrir surtout le Global Hackathon. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, effectivement, tenter l'aventure à deux.
Voilà. Ok. Et alors, sur quel projet vous avez choisi de travailler ?
Alors aujourd'hui, nous avons décidé de joindre, on va dire, nos forces entre sa connaissance du monde juridique et moi, ma connaissance du monde web, finalement. Et on s'est dit, pourquoi pas créer, en fait, une plateforme qui permette aux avocats de créer leur site internet facilement et de reprendre, finalement, la main sur leur identité numérique. Donc aujourd'hui, nous proposons une application sans avoir besoin de développer, en tout cas, et c'est permettant de créer des sites internet facilement. Là, dans l'idéal, effectivement, c'est déjà de pouvoir proposer des formats préfets de sites internet, de pouvoir les héberger le plus simplement possible et d'être prêt à l'emploi le plus rapidement possible, sans avoir besoin d'externe.
Donc l'idée, c'est vraiment de simplifier la création de sites internet par des avocats. Et ça se matérialise comment, enfin ?
Très simplement, avec une inscription sur notre site. Derrière, login, mot de passe, on accède en fait à un questionnaire, 4-5 étapes. Ce questionnaire-là pose des questions notamment autour de la pratique du cabinet, le nombre de collaborateurs, le nombre de dossiers, voilà. Et derrière, en fait, il va y avoir des propositions de templates. Ces templates vont refléter en fait l'activité du cabinet. Derrière, il y aura un agencement avec différents contenus qui sont pertinents, qui vont derrière finalement faire gagner du temps à l'avocat. Et l'avocat, à ce moment-là, va personnaliser le logo, les couleurs. Et en termes donc de mise en ligne, derrière, en 30 minutes, une heure, son site est opérationnel et il n'a plus qu'à commencer son activité d'avocat avec son site tout fait.
Top. Écoute, ça, c'est génial parce que c'est vrai que ça prend du temps, puis ça a aussi un coût. Enfin, du coup, vous avez à la fois un gain de temps et puis un gain aussi, j'imagine, financier.
Complètement. Et d'indépendance.
Et alors, quelle est l'ambiance au sein du Global Legal Hackathon et puis quels ont été les temps forts pour vous?
Alors, le Global Legal Hackathon, en fin de compte, c'est vraiment une belle équipe de mentors. Beaucoup, beaucoup de conseils, finalement, qui nous ont vraiment aidés. Parce qu'au début, on était parti sur une idée très large. Et là, en 20 minutes d'atelier, par exemple, on a réussi à déterminer, en fait, notre feuille de route. Donc, c'était vraiment des insights et des renseignements hyper précieux. Globalement aussi, de l'ambiance entre les différents candidats qui est archi détendu, archi cool. Bien sûr, dans de beaux locaux. Aujourd'hui, ceux d'Ubisoft, finalement, ils nous ont vraiment, vraiment, vraiment bien accueillis.
Ouais, c'est clair.
Donc, j'ai envie de dire que du positif dans son ensemble. Et je pense qu'on en sortira tous grandis, puisque finalement, même en étant professionnel, même en étant étudiant, enfin, on en apprend tous, en tout cas, à travers ce Global Legal Hackathon.
Et qu'est-ce que tu as appris, justement? Qu'est-ce que cette expérience t'a appris, t'a apporté?
Surtout, en fait, à structurer mon idée et derrière, en fait, à aller tout de suite droit à l'objectif. Alors, je m'explique, notamment dans la conception d'un produit. Au début, on pense très large. On a envie de viser un maximum de monde et on a envie de contenter tout le monde. Puis finalement, on se rend compte que derrière, en fait, plus on a tendance à s'épancher, plus au moins on est efficace. Et aujourd'hui, en fait, c'est surtout de se constituer un premier pool, une première piscine de clients, on va dire, qui, eux, vont nous promouvoir.
Ouais.
À terme.
Donc, et puis après, de développer éventuellement d'autres fonctionnalités, etc. Bon, merci beaucoup.
Mais merci beaucoup
et puis,
pour
mon pitch.
Merci.
Pour cette nouvelle interview, j'accueille Anne-Catherine Vola et Richard Maxoud. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ?
Bonjour à tous, oui, je m'appelle donc Richard Maxoud et je suis en ce moment étudiant au sein de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Et tu étudies ?
En Master 2.
Tu étudies quoi ?
Droit du tourisme.
Ok.
Et je suis également étudiant au sein du diplôme d'université de Paris 1, également droit et informatique, d'où ma présence
ce
Global Legal Hackathon.
Bonjour, donc moi c'est Anne-Catherine Vola, je suis juriste et médiatrice et donc déjà professionnelle, mais en fait étudiante aussi au sein du DU avec Richard.
C'est comme ça que vous êtes connue ?
Exactement, comme ça avec Marie et puis le reste de l'équipe. Voilà, et d'où aussi l'idée du hackathon qui est venue à travers le DU.
Et alors, sur quel projet vous avez choisi de travailler ?
On essaye de créer un serious game. Ça répondait avant
donc un
tout...
un jeu sérieux.
C'est ça. dans l'objectif de former des professionnels, non pas du droit, mais des professionnels tout court, travaillant dans l'environnement globalement, aux grandes jurisprudences...
environnementales ?
C'est ça.
Ah, c'est hyper intéressant. Et ça se matérialise comment, votre jeu ?
Je sais pas si vous voyez le jeu The Legend of Zelda. Et ben, c'est un jeu entre guillemets en 3D, mais cette fois on sera dans une zone, et à chaque fois on doit passer dans une autre zone, on est bloqué par une sentinelle. Et donc la sentinelle nous pose une question, on doit y répondre. Si on donne une mauvaise réponse, elle nous tue.
Ah, d'accord.
Oui, faut que ça soit fun un peu.
On repart nulle part.
Et c'est juste... à destination de personnes majeures, donc on peut se permettre un peu des fusions de sang, je
oui,
pense.
Oui, tout à fait. Non.
Oui, oui.
C'est ça.
Et donc, l'objectif même, c'est donc de répondre à la question, et cette question, entre guillemets, elle nous forme. Et ensuite, quand on passe dans l'autre zone, on pourra admirer en récompense, entre guillemets, un bel environnement, d'où la question du droit de l'environnement, et ainsi de suite.
Et alors, quels sont les différents pans du droit de l'environnement que vous abordez dans votre jeu ?
En fait, on a conçu le jeu comme une mise en situation pour le joueur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs scénarios, et chaque scénario correspond à une jurisprudence, plus ou moins ancienne d'ailleurs, où en fait, il est mis en situation, on reprend le cas d'espèce de la jurisprudence, et on le met en situation, et en fait, on lui propose en fait différents chemins qu'il va pouvoir choisir, sous forme souvent de questions. Et donc, ça touche à peu près tous les domaines de l'environnement. Aujourd'hui, au Hackathon, on va proposer en fait comme exemple... une jurisprudence de 2013, en fait, qui parle d'une entreprise dont l'objet était de décontaminer les huiles et qui, en fait, les a juste diluées, revendues à des cimenteries et donc accumulées, finalement, en fait, un préjudice environnemental, une infraction pénale, une faute civile et une faute administrative. Donc là, c'est, une,
oui,
assez fort.
C'est assez
emblématique. Mmh. Elles sont pas toutes aussi symboliques, les jurisprudences et donc les situations qu'on a retenues.
Comment vous intégrez les jurisprudences dans votre jeu, en fait?
On a une question, on a plusieurs choix. Soit les quatre choix sont justes, donc il faut répondre aux quatre, soit il y a une seule réponse qui est juste.
Ok.
Très concrètement, en fait, pour lancer le jeu, en fait, on a imaginé, dans le cas qu'on va soumettre au hackathon, en fait, un salarié qui se retrouve dans un groupe de travail à élaborer justement un process de décontamination des huiles, qui est bien rédigé, etc. Mais dans les faits, il s'aperçoit que c'est pas du tout ce qui se passe, qu'il y a une espèce de trajectoire en fait parallèle. Et donc, les premières questions qui vont se poser, c'est ça s'apparente un peu à le lancement d'alerte, mais c'est pas notre sujet, mais c'est évoqué dans le jeu. Voilà, qu'est-ce qu'il peut faire lui à son niveau? Et donc, il y a le côté avertir la presse, avertir, voilà. Mais il y a aussi ensuite la voie judiciaire. Et c'est plus par là ensuite qu'on se dirige vers toutes les autres possibilités qui s'offrent à lui. Et l'idée, c'est de mettre en perspective un petit peu, s'il fallait une morale au jeu, c'est comment finalement l'action ou la compréhension d'un individu va avoir une portée très globale, puisque bon, la jurisprudence de 2013 cumulée à toutes les autres a abouti à ce qu'on connaît maintenant, le préjudice écologique, enfin, un délit d'écocide, etc. Donc c'est l'idée de la participation individuelle qui fait finalement l'effort collectif.
Et votre cible, du coup, ce sont les entreprises?
En fait, la cible, puisqu'en fait, au tout début, le projet est né de questions, en fait, qu'on avait autour de nous, de consultants dans des startups qui travaillent déjà dans l'environnement, qui ont fait remonter ce besoin de comprendre les jurisprudences françaises, internationales, etc. Donc, la cible qu'on a retenue, à ce jour, en tout cas, c'est plutôt des consultants, enfin, des professionnels déjà investis dans le monde de l'environnement.
Des bureaux d'études.
C'est ça, mais plutôt avec des profils d'ingénieurs, techniciens, dans la décarbonation. Donc voilà, donc en fait, on n'a pas voulu non plus prendre l'angle uniquement décarbonation et effet de serre, mais voilà, donc ce sera assez global, mais pour des gens qui ont déjà une sensibilité quand même assez forte sur le sujet.
Ok. Donc du coup, comment s'intègre la partie vraiment purement jurisprudence, explication de cette ou ces décisions, dans le parcours de votre jeu ?
Alors en fait, donc dans la mesure où on fait revivre en fait le cas d'espèce au joueur, c'est vraiment à la toute fin, à la fin du process en définitive, qu'il a accès donc à... non seulement à la décision, mais c'est surtout voilà décortiquer un peu la décision et expliquer les principes qui sont dégagés par le juge.
C'est ça qui compte au final.
Voilà, c'est voilà.
Plus que l'apparition de la décision, parce qu'elle sera pas forcément comprise d'ailleurs.
Non, c'est ça, exactement. On citera la référence, mais c'est peut-être pas la peine en effet.
Très bien. Est-ce que vous pouvez décrire l'ambiance au sein du Global Legal Hackathon et quels ont été les temps forts pour vous ?
Globalement, c'était vraiment sympathique. J'ai beaucoup apprécié, surtout le fait de parler même avec d'autres personnes qui sont entre guillemets dans le milieu du droit. Parce que pour moi, vu que je suis étudiant, ça fait toujours plaisir.
Oui.
Et ça m'a fait bizarre de voir, entre guillemets, que j'étais l'un des rares étudiants, parce que tous les autres, ils sont déjà professionnels,
mais
avocats.
Il y en a quelques-uns qui sont étudiants aussi.
Oui, mais j'en ai pas vu
mais
beaucoup.
Mais c'est vrai qu'il y en a pas énormément.
Moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'on est tous très différents, sur des thématiques très différentes. Et en même temps, il y a une espèce de fluidité dans les échanges. Chacun va parler de ses projets. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette.
Et qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience? Qu'est-ce que ça vous a apporté?
Il y a plein de choses. L'organisation même du Global Hackathon, tout est hyper bien organisé. Enfin voilà, bon, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les ateliers, mentoring, où je trouve qu'on apprend. Ben, ça relève un peu du speed dating, ça va très vite, mais justement, oui. Je trouve que c'est très intense. Moi, j'aime bien.
Ça force à aller à l'essentiel aussi.
Exactement. Et... on se perd pas dans les circonvolutions. On fonce et ça va très vite. C'est très intense et enfin, j'aime bien ce format. Ça me convient bien en fait.
Que du positif cette expérience. En plus, dans des super locaux. Hein.
Anne-Catherine.
Oui, que du positif. En fait, c'est vrai que, en effet, c'est pas terminé. Il y a encore plein de choses à venir et l'après-midi va être riche aussi. C'est vrai que l'idée de s'immerger pendant un week-end complet, moi, ça me faisait un petit peu peur. En fait, il est passé à toute allure et j'ai l'impression d'avoir appris plein de choses et puis d'avoir vécu des trucs vraiment super intenses et voilà. Donc, je pense qu'on est tous assez excités par le pitch. On a vraiment envie de.
Ouais,
c'est motivant.
Bah, c'est l'aboutissement aussi de tout ce travail. Donc. Bon, bah, merci à tous les deux et puis bonne chance.
Merci.
So for the next interview, I'm welcoming here Leonard Govaerts. Can you introduce yourself?
I'm from Belgium, first of all, and I work for a company called Tech for Legal. And what we do is that we first have a introduction with some clients who have some struggles in their legal processes. And then we see if there is a legal application available. And if there is an application available which suits their needs, we help them implement it as well. So we do some project management over there. But sometimes the applications are not available. So then we are looking for custom development. And then we develop a tool tailored to their needs.
And why did you choose to participate to the Global Legal Hackathon in Paris?
First of all, we looked around, which was the closest nearby Belgium. And it was Paris. And then we saw it was Ubisoft, which excited a lot of our developers. So
sure
it was very easy to decide to come over here. Yes. I think it's very interesting to have a room full of people interested in legal tech and see what their vision is on it and the future. Because it's very new. There is still a lot of innovation to happen and a lot of convincing as well of the legal industry. So it's very exciting and good that you bring all these people together.
And what project did you choose to work on and why did you choose this project?
We developed a rental lifecycle platform. So it starts with creating a contract because a lot of people who have an apartment and they have just one apartment, they don't know what should be included in a contract. They have no legal knowledge about it. So they end up going to a real estate agent or a lawyer and they take a lot of money from your income. Like they take 2 or 3 months of rent, which is a lot of money.
Yeah.
And if you automate the contract, document automation, based on some questions that the document will be filled into your needs and you're sure that it's compliant, it's so easy and you feel secure and you don't pay that much money because our platform will be quite low cost in comparison to what they charge. But it doesn't end with like setting up a contract. It's also about, for example, the deposit. The deposit is often either put on the bank account of the landlord or with the government. That's a whole process. You have to fill in a lot of stuff and we want to make that very easy and that both parties feel secure. So we connect that to the description of the place, which is done by AI taking pictures. And then at the end, you compare to take pictures again. And then the AI compares it and sees if there is damage or not. So it's kind of a smart contract. So at the end, the AI decides, okay, there is damage. We estimate that this will be the cost. And then it will release the funds if both parties agree, of course, because we have to keep the human in the loop to keep it safe and secure.
Yeah.
And we also want to make both the landlord and the renter feel very secure because they always have a question like, okay, there's mold on the wall. What rights do I have as a renter?
Yeah.
So we want to create a virtual lawyer, like a chatbot where you can just ask your question and then you can report it straight from the platform to the landlord.
So it will be an app?
A website, first of all, because I think it's easier. We might have a supporting app in the future to take the pictures with the AI, but I think it's a big platform. It's not easy to use on an app.
And there is no similar solution that already exists?
Not end-to-end like we do it.
Okay. And can you describe the atmosphere within the Global Legal Hackathon and what were the highlights for you?
Relax, but at the same time, you have a good mentorship here. Like the mentors come proactively to you and say like, okay, what are you working on? And they give great feedback, which you can implement immediately. I love the location with the terrace and the great weather we have
this weekend.
It's incredible.
I think everyone that I interviewed told me exactly the same thing.
We could sit outside, brainstorm. It gives you energy as well and great ideas. And there was a great mood. We had so much fun here, actually. It was amazing. I loved it.
What did you learn from this experience?
I think the main thing our team learned was pivoting very fast. Because actually on Friday, we still had to develop an idea. And the Friday evening, we decided to do something with ESG. But the more we dived into it on Saturday morning, the more we saw like that it was very difficult to build something with the limited knowledge we had. So we had to pivot to a new idea. And then we looked like, which expertise do we have in the group? And we have a lawyer in our group who has expertise in rental issues. And then we had RPA experts, which is perfect for like registering something on a government platform without humans being involved. We had AI experts, and it all just came together. And I was so surprised and proud that our team did that in such a short term.
Yeah, because you changed your idea yesterday.
Yeah, at 11 we started a new idea.
So everything is possible.
Everything is possible, yes.
So thank you very much. And
thank you.
Good luck for the pitch.
Thank you.
Bye.
Vous devez maintenant mourir d'envie de savoir quels sont les projets qui ont été sélectionnés pour aller en demi-finale, alors je ne vous fais pas attendre davantage. Il y a 4 équipes qui ont été sélectionnées parce qu'il y avait 4 catégories de projets. Il y avait une catégorie accès au droit, une catégorie business of law, une catégorie, c'était un challenge particulier lié à l'Ukraine et aux crises humanitaires, et une dernière catégorie qui était la RSE. Donc, les projets qui ont gagné sont Ideal, la solution reposant sur la blockchain qui permet aux personnes devant fuir leur pays de conserver leurs documents d'identité et autres documents officiels dans un coffre-fort électronique. Deuxième projet, Green Alert, l'application qui vous aide à signaler et qualifier le greenwashing des publicités françaises. Troisième projet, Velex Audience, la solution dont l'objectif est de réduire significativement le temps d'attente en audience grâce au déploiement d'une gestion optimisée bénéfique à tous les acteurs de la justice. Et puis, un dernier projet qui ne fait malheureusement pas partie des projets interviewés qui s'appelle Speak Up at Work et qui propose une solution pour lutter contre le harcèlement au travail. Je tiens à féliciter une nouvelle fois toutes les équipes qui ont vraiment été géniales. Je leur souhaite toute la réussite du monde dans leur projet. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note, de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup, et à parler du podcast autour de vous. Si vous avez des questions, ou si vous voulez donner votre avis, ou si vous avez envie de partager votre point de vue sur tous ces sujets d'innovation, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire sur les pages du Vent sous la Robe sur les réseaux, donc il y a une page sur Instagram, une page sur Twitter, une page sur LinkedIn, une page sur Facebook, et sinon sur le site internet, sur la page dédiée à chaque épisode, vous avez la possibilité de laisser des commentaires. C'est vraiment fait pour ça, ça peut être très intéressant de débattre sur ces sujets, donc n'hésitez pas. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt !